Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. Mon objectif, c'est que vous découvriez de nouvelles personnalités, leur parcours, leurs conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes, ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous.
Bonjour Alexa.
Et bonjour.
Merci beaucoup de venir sur la French Touch podcast. Alors, pour nos auditeurs, il faut savoir que l'interview se fait à distance. Tu es actuellement à Vancouver et je crois qu'il est un peu plus de 8h15 du matin.
Ouais.
Donc déjà, merci beaucoup de t'être levé si tôt pour une interview.
Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
Juste pour donner un peu de contexte, déjà, j'en profite pour remercier aussi Adlène qui nous a mis en relation. Donc, merci à lui.
Ouais.
Tu es actuellement senior product designer chez Parsable, donc depuis plus d'un an et demi. On va revenir sur ce qu'est Parsable et ton rôle. Avant ça, tu as pas mal alterné les périodes de freelance, UX ou graphiste design et aussi de salariat. Donc, par exemple, avant de partir pour Vancouver, tu travaillais sur Paris en tant que designer freelance, à cheval d'ailleurs entre la France et les États-Unis, et tu avais notamment réalisé des missions pour Nokia Health sur l'étude de marché américain de la santé.
Exact.
Donc en tout, ça fait plus de 8 ans que tu travailles. Voilà, je te refais pas le CV, mais là, tu as rejoint, on va parler de Parsable, justement. Donc c'est une société qui existe, je crois, depuis 2011. En termes de financement, parce que c'est une société qui est très importante, je crois qu'elle a été financée au plus de 70 millions de dollars. Il y a eu de nombreux investisseurs, en fait, prestigieux. J'ai découvert, il y avait First Round, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz. Comme tu disais, vous avez des bureaux à San Francisco, à Austin, à Vancouver, où toi tu travailles, et aussi à Dublin, en Europe.
Ouais, et on a un tout petit bureau à New York aussi, avec deux personnes.
D'accord. Alors, Parsable, j'ai repris ta définition, celle que tu avais donnée, puisque effectivement l'ensemble du site est en anglais, donc je vais éviter de décorcher tout ça. Parsable donne au travail humain un avantage numérique dans un monde qui est de plus en plus automatisé. En donnant aux travailleurs d'aujourd'hui les outils numériques de demain, Parsable aide à définir un futur au travail industriel qui est vraiment centré sur l'être humain. Alors, des exemples de sociétés qui travaillent avec vous, il y a Procter & Gamble, Shell, il y a Honeywell, qui est peut-être moins connu en France, mais qui s'appuie donc sur la première plateforme mobile de travail connecté qui a été créée par Parsable pour rendre en fait l'exécution sur le travail sur le terrain, plus cohérente, transparente, dynamique, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et la productivité. Parsable est une entreprise donc basée à San Francisco qui possède des bureaux en Amérique. Et il y avait une notion qui ressortait donc sur de ce que j'ai pu lire, c'est l'industrie 4.0.
Ah oui. Ouais.
Tu peux m'en parler. Alors j'ai deux questions. La première c'est qu'est-ce que l'industrie 4.0. Mais avant de parler de ça, comment t'es rentré là-dedans et qu'est-ce qui t'a intéressé?
Du coup en fait c'est comme souvent juste une question de rencontre. Donc je venais d'arriver en fait à Vancouver j'ai pris des billets pour une sorte d'événement où il y avait toutes les startups qui se regroupaient à ce moment-là. Du coup je me suis dit ça va être un bon moyen pour moi de voir un peu c'est quoi l'environnement, l'écosystème ici. Parce que la différence aussi par rapport à Paris c'est que je trouve les startups parlent beaucoup moins, elles communiquent beaucoup moins et du coup c'est plus difficile de les trouver.
À Vancouver.
Ouais, à Vancouver. Qu'à Paris, je trouve qu'on a quand même une communauté qui parle beaucoup, qui s'exprime, qui essaye de se retrouver. Ici, c'est un petit peu plus différent, ou alors tu vas toujours retrouver les mêmes grosses en fait startups qui vont essayer de faire bouger les choses. Et du coup, bref, donc je suis allée à cet événement-là, et c'est là en fait où j'ai rencontré plusieurs startups qui étaient hyper intéressantes. Et puis, justement, je vois Parsable, je fais « Oh là là, le truc, l'angoisse
!» D'accord, moi, tu me rassures.
Je me dis « industrie, enfin voilà, pas mon truc. » Enfin, j'adore les boîtes qui sont pas sexy. Donc, ça me gêne pas. C'est pas ce côté-là nécessairement qui me gêne. Alchemix, la distribution, c'était pas forcément sexy non plus. Du coup, ça me parlait. Mais bon, je me disais « voilà, bon, je voyais bien que c'est une petite start-up. » quand même, à Vancouver, ils étaient même pas une vingtaine, on était une quinze-vingtaine. Ils étaient 60 en tout. Je venais de quitter Alchemy, je voulais un truc un peu plus gros. Je m'étais dit, je vais peut-être essayer une grosse boîte pour voir ce que ça fait. Donc, j'étais pas du tout. Je voulais juste aller voir, en fait, soit les grosses startups, soit une grosse, enfin une grosse entreprise. Et puis finalement, je me dis, bon, je vais quand même aller leur parler. Ils ont l'air sympas. Et effectivement, je suis tombée sur un Français en fait, qui était du coup bah le qui est aujourd'hui le head of product et qui gère en fait l'office à Vancouver. Et en fait, bah j'ai adoré parce que déjà d'une, ça a été super fluide. Et surtout, en fait, je lui dis, mais vous avez pas tel et tel problème, vous avez pas tel et tel souci. Il me dit, mais comment tu sais? Je sais pas, j'ai une petite idée parce qu'en fait, il y a vachement de ponts entre Alchemix et Parseval. Il y a beaucoup de choses que je voyais venir en fait déjà. Que je dis, ah ouais, mais vous allez avoir sûrement des soucis avec ça, avec ça, avec ça, ou est-ce que c'est pas des problèmes que vous avez déjà? Et il me dit, ouais, mais si, carrément. Et du coup, en fait, je me suis dit, j'ai aimé l'équipe, et puis la mission, je la trouve quand même super intéressante. D'essayer de. Ils ont quand même, comme tu disais, l'être humain est super important, en fait, dans Parseval.
Est-ce que tu peux préciser, effectivement, parce que j'ai survolé un peu ce que fait Parseval, mais je pense qu'il faut rentrer un peu plus dans le détail pour que les gens comprennent.
Ouais. Alors, du coup, Parseval, donc c'est comme tu l'as expliqué, c'est juste une plateforme qui est à la fois sur web et puis tu as une application mobile où d'un côté sur le web tu peux recréer en fait tout ce qu'on appelle des templates de toutes les procédures en fait qu'on a aujourd'hui sur papier avec des 200 pages. Tu les reproduis en fait sur notre plateforme de manière bien plus concise. En utilisant en fait aussi des intégrations avec SAP, etc. Parce qu'en fait c'est un monde en fait qui est hyper connecté et ils ont besoin en fait eux ce qu'ils font c'est qu'en fait ils réécrivent partout, ils reprennent les papiers et réécrivent en fait dans tout leur logiciel à la main ce qui s'est passé dans la journée. Donc nous on essaye en fait de simplifier ça avec une plateforme où tu peux réécrire ces procédures et des applications où tous les opérateurs sur le terrain peuvent en fait exécuter ces travaux tous les jours.
Ok, très clair.
Donc en fait quand tu vois ça tu te dis ok c'est simple mais ça peut être paraître simple mais en fait l'idée c'est comment en fait tu récupères plein de nouveaux types de données type photo, audio, vidéo, comment tu fais pour en fait simplifier avec la technologie le travail au quotidien. C'est pour ça qu'en fait, ce qui est super, et moi, ce qui m'a intéressé aussi, que j'avais pas eu forcément à Chemix, c'est cette intégration avec toutes les technologies environnantes. On essaie tout le temps d'être un peu à la pointe. Comme par exemple, on va faire des POC avec de l'ARVR ou des lunettes ou des Google Glass. Ouais. Parce que c'est des technologies qui, dans l'industrie, ils veulent mettre de l'argent dessus. Okay. Ça les intéresse. Ils ont pas forcément les ressources en interne. Et ils attendent, en fait, des startups avec qui ils bossent de faire ça, de faire cette partie-là, en fait, de faire ce premier pas vers eux. Et c'est hyper intéressant, du coup.
D'accord. Ouais, typiquement, je relisais il y a pas longtemps sur l'échec grand public des Google Glass, mais par contre, ouais. la déclinaison business, où là, ça prend. Ça, c'est un exemple de produit que vous cherchez à intégrer et mettre à disposition de vos gros clients?
Ouais. Alors, en fait, c'est marrant parce que, si tu veux, on a fait en fait des sortes de customer advisory board, c'est-à-dire c'est un moment avec tes gros clients avec qui tu passes quelques jours en fait à discuter de des innovations du futur, de comment ils voient évoluer leur secteur et puis comment nous Parseval on peut s'intégrer dedans. Et du coup en fait on a fait cette sorte de discussion autour des innovations et on leur a donné $100 en faux évidemment. Leur a dit où est-ce que vous mettez votre argent.
Okay.
Il y avait une liste, quoi, c'était super intéressant. Et ben, il y avait plein de choses. Il y avait vous nous aidez avec, ils ont des tools pour entraîner leurs équipes sur tout et n'importe quoi. En fait, ils ont des systèmes, ils disent bah, vous intégrez directement, comme ça, ils apprennent à utiliser Parseval de manière plus fluide parce que sinon, c'est quelqu'un qui doit leur apprendre et tout, ça prend du temps sur le terrain de leur expliquer comment l'utiliser. Ça peut être des choses simples comme ça à. On veut beaucoup plus d'intégration avec SAP, on veut de l'analytics, on veut des dashboards, on veut du machine learning. Mmh. Tu ne devineras pas sur quoi ils ont mis leur argent. Ils ont mis genre le trois quarts de leur argent sur du voice control.
Ah, du voice control. Okay.
Ouais. Okay. Moi personnellement, je suis un peu tombée de ma chaise. J'étais là, waouh. Enfin, parce que Parce que bon, il faut s'imaginer en fait que aussi le floor, enfin la ligne de production, elle est hyper bruyante.
On
Donc,
parle c'est quoi le, c'est quoi comme cadre?
Quand t'imagines, t'es dans une usine, tu vas chez Renault, t'es en train de faire des voitures.
Ok.
Et le bruit, il est, enfin les gens, ils ont des
casques anti-bruit, ouais.
Voilà, ils ont des casques anti-bruit, ils ont des gants, ils ont des lunettes de protection, ils ont des énormes chaussures, enfin. Tu vois, ils ont un équipement hyper lourd, l'environnement est hyper bruyant. Et du coup, ils arrivent avec, ouais, on veut du voice control parce que, bah, en fait, c'est aussi hyper dangereux pour eux d'avoir un téléphone ou une tablette dans leurs mains. Parce que ça veut dire qu'ils vont pas avoir forcément le réflexe d'appuyer sur un bouton s'il y a quelque chose qui se passe ou ils vont avoir les mains prises.
D'accord.
Et c'est un problème pour eux.
Ça, tu l'as vu, t'es allé in situ. Comment s'est passé justement ton apprentissage, ta montée en compétences ou connaissance du terrain?
Ah, c'était sport. non, c'était hyper intéressant en fait parce que les clients sont hyper ouverts à nous laisser venir. Parce que de toute manière, on est aux États-Unis, donc il y a plein de NDA, on a signé plein de papiers pour être sûr que on divulgue aucune information, etc.
Ouais, et NDA, c'est accord de confidentialité.
Ouais, et donc ils sont assez ouverts à nous laisser rentrer en fait dans les usines, ou alors à nous. De toute manière, on est au cœur de leur métier parce qu'on voit leurs procédures.
Ouais.
Et ça, pour eux, c'est comme Nutella avec la recette, quoi. C'est, ouais. Enfin, c'est des informations qu'il ne faut pas laisser transparaître. Et du coup, bref, donc en fait, dès que tu leur demandes en disant, bah, écoutez, je connais pas votre métier, en fait, je ne sais pas ce que vous faites. Puis moi, en plus, j'étais nouvelle dans cet univers, donc j'ai été très transparente en disant, je ne sais pas. J'ai besoin de savoir pour vous aider. Vous m'avez parlé plein de choses. Je suis hyper intéressée, mais j'ai besoin de voir, quoi.
Ouais.
Et du coup, en fait, dès mes premières semaines, en fait, je suis allée sur le terrain. Surtout que, en fait, comment ça se passe, c'est vrai que j'ai pas forcément bien expliqué, mais Parseval, c'est vraiment une app qui marche quand tu la fais évoluer dans beaucoup, beaucoup de. Enfin, je suis désolée, j'ai les mots en anglais, mais
scale. Dis en anglais. Scale,
ouais.
Ok, ouais.
Ouais.
Grandir.
Ouais, t'as vraiment besoin de scale le produit en fait à grande échelle dans plein d'usines pour que tu vois un retour sur investissement. Si tu mets en place Parseball dans une usine, tu vas pas voir ton retour sur investissement parce qu'il faut quand même que tu achètes des tablettes, faut que tu achètes des téléphones, donc c'est un coût en fait à la base. Et en fait plus tu vas le mettre en place dans plein d'usines, moins ça va te coûter cher parce que tu vas pouvoir avoir potentiellement des contrats avec pour avoir des devices moins chers, ou alors tu vas pouvoir voir aussi ces données-là par pays, parce que nos clients en fait ils sont internationaux, donc ils ont aucune visibilité sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis versus qu'est-ce qui se passe au Maroc ou en Afrique. Ils savent pas vraiment ce qui se passe. Donc en fait, ils peuvent comparer et mettre en place. Ils font des tests, en fait, mettre en place des procédures différentes d'une usine à l'autre pour voir qu'est-ce qui marche le plus. Et une fois que ça marche mieux, ils vont l'intégrer ailleurs.
Et toi, dans ton processus d'apprentissage, parce que là, c'est un compréhension de OK, dans quelle industrie tu vas. Mais enfin, tu vois, t'as dit un truc hyper intéressant, c'est le scale. Comment, en tant que product designer, t'intègres le scale dans ta réflexion produit? C'est de me dire, ok, bon, mais en fait, bien penser, Gabriel ou Alexa, ça va être sur X pays ou X continents avec 250 usines, des nationalités. Comment t'intègres ça, toi?
Mais il y a plein de manières de le faire. Comme tu l'as dit au niveau produit, déjà, quand je suis arrivée à Parseball, ils traduisaient l'application un peu à la main sur des fichiers Excel.
Wow.
Typiquement, c'est le genre de choses que j'avais vu avec Emix. Je leur ai dit, écoutez, il y a des outils comme Transifex, par exemple, qui simplifient ça. Oui, ça va nous coûter de l'argent. Mais au final, on va voir le retour sur investissement hyper rapidement, en fait. Et puis surtout, on reste une start-up. Donc, les moindres heures que les product managers ou autres vont passer là-dessus, ils vont pas le passer sur autre chose. Donc, c'est dommage. Autant le laisser, autant poser la question, à des experts, et surtout parce qu'en fait, comme je te disais, on a tous les pays dans notre boîte. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'on demandait à Alexa, est-ce que tu peux traduire le français?
Ouais.
Est-ce que tu peux traduire l'allemand? Mais en fait, voilà, on arrive à un moment où il faut que tu scales, justement, et tu peux pas demander à tout le monde de traduire les choses, ça fait perdre trop de temps. Et du coup, automatiser ça, c'est un point, par exemple, au niveau produit.
Et justement, enfin, là, on est bien d'accord qu'on parle de la traduction de l'interface, mais après, la documentation et la création de ce contenu-là, ça, c'est délégué aux clients, c'est eux qui gèrent ça.
Oui, ça, c'est le client qui s'en occupe.
Okay.
D'ailleurs, ça fait justement partie de notre roadmap, de permettre en fait aux clients de mieux gérer leurs procédures en plusieurs langues.
Okay.
C'est typiquement un des moyens de scale parce que au final, voilà, tu le fais en anglais. Comment tu fais en fait pour ne pas avoir à le dupliquer 20 fois? Parce qu'au final, tu vas perdre. Parce que comment ça se passe en fait? C'est que tu vas créer une procédure, tu vas la faire valider par ton équipe en interne. Ensuite, ils vont la publier. Si tu la publies, c'est-à-dire que c'est disponible à tout le monde.
Ouais.
À toutes les personnes qui sont avec leur téléphone sur la ligne de production, ils vont pouvoir voir ces travaux, les dernières modifications qui ont été faites sur les procédures et suivre ces nouvelles procédures-là. Et du coup, ça accélère dramatiquement en fait le flow. Parce qu'avant, tout était fait par papier. Okay. Et en fait, si tu le fais en plusieurs langues, ce que les clients ont tendance à faire aujourd'hui, c'est en fait, ils vont créer d'autres procédures.
D'accord.
Ça va pas être... Et du coup, en fait, tu perds complètement la cohérence enfin, entre chaque procédure parce que tu vas dupliquer les choses. Donc, en fait, tu n'as plus du tout le lien entre toutes les procédures. Et finalement, la procédure aux États-Unis va être complètement différente de celle en Afrique, de celle en Asie. Et ça crée d'énormes problèmes, en fait, à grande échelle.
Mais c'est hyper intéressant parce que là, on n'est pas sur un outil qui te permet de gérer plus rapidement ta façon de travailler locale, on va dire, mais sur une centralisation, un outil ou un service qui te permet de centraliser et qui modifie ta façon de travailler à l'échelle globale.
Exactement.
Comment tu arrives à quel point il y a des... parce que tu me disais, les clients, on fait un advisory, ils mettent de l'argent, etc. Quand on dit les clients, est-ce qu'on parle des managers ou est-ce qu'on parle des gens de terrain? Et à quel point, en fait, l'utilisation d'outils centralisés comme ceux-là peuvent-ils être mal vus, voire conspués, on va dire, par les gens de terrain qui ont leur habitude, qui ont leur façon de faire, et c'est quoi cet outil SaaS de merde qui vient me changer mes habitudes, tu vois? Je sais pas, j'exagère, mais...
C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question parce que ça fait partie des choses qui peuvent potentiellement nous bloquer, entre guillemets. Moi, ce que j'ai vu sur le terrain, ce qui est marrant en fait, c'est que ce que j'ai vu sur le terrain, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, moi je m'étais dit, voilà, ça va être les personnes proches de la retraite ou tu vois en fin de carrière qui vont dire ça fait 30 ans, 40 ans que je fais ça, tu vas pas me réapprendre mon métier quoi. Moi ce que j'ai vu de mon expérience c'est que c'était pas toujours le cas et que t'as aussi des jeunes qui aiment pas la technologie et qui se disent quand je dis des jeunes, voilà, des gens de 30 ans quoi, qui disent ouais non c'est bon, mon téléphone déjà ça me saoule de l'utiliser et tu me demandes de le ramener au boulot et de l'utiliser tous les jours, ça me saoule. Enfin, moi. Et puis en plus, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces usines-là, elles sont au milieu des États-Unis, perdues au milieu de nulle part. Que c'est des gens qui vont faire toute leur carrière dans la même usine, que leur père a fait ça, que leur grand-père a fait ça, et qui sont pas du tout dans, tu vois, enfin. Nous, c'est cool, voilà, on parle de Google Glass, on parle de téléphone, on fait tout sur le dernier iPhone X.
Ouais.
Enfin, eux, ils ont pas le dernier iPhone X, quoi. Donc,
Ça, typiquement, justement, ils ont pas le dernier iPhone X. Vous êtes, solution web et mobile. C'est quoi comment vous intégrez, en fait, les contraintes de type de device, effectivement, sur le terrain potentiellement des low-end devices, enfin des vieux téléphones. Comment vous intégrez les contraintes de perf, de qualité ou de type de device?
Bah, c'est un gros challenge. C'est un énorme challenge, surtout que déjà, en fait, depuis récemment, on a dit qu'on supportait uniquement les trois derniers softwares. Donc, si Apple update son software.
Ok.
On va pas supporter trois. On va supporter uniquement les trois précédents. Mais après ça, on a un foison de devices, d'appareils dans nos bureaux.
Okay.
Et on a une équipe qualité QA qui vérifie sur la plupart des devices si ça fonctionne.
Okay.
Ils ont plein de tests automatisés, etc. Et du coup, on essaye de faire un super travail là-dessus parce qu'en fait, il faut se rendre compte aussi que, par exemple, si Parseval est mis en place sur une ligne de production, par exemple, moi, je sais que Renault, j'avais posé la question, il m'a dit, en fait, une minute d'arrêt de production, c'est 2000 euros. Donc, en fait, tout de suite, tu te dis, OK, ouais, faut pas que ça s'arrête, quoi.
On va parler de l'organisation. Donc, t'es product designer à Vancouver. Vous avez une équipe, tu m'avais dit, vous êtes une vingtaine de personnes à Vancouver?
Alors maintenant, on est un peu plus, mais oui, ça doit être ça. Peut-être 25 maintenant, je crois.
OK. T'es dans l'équipe produit? Comment c'est organisé?
Oui, alors, comment c'est organisé? Je suis dans l'équipe design. Donc, on est 7 maintenant.
OK.
Enfin, on est 5 plus 2, on va dire. Donc 5 personnes qui sont dans les bureaux à San Francisco et Vancouver, et 2 personnes qui sont à Tijuana et à Asunción, donc en Amérique du Sud,
okay.
Pas en Amérique.
Pourquoi ?
Parce que c'est assez commun ici d'outsource des ressources, c'est-à-dire d'avoir des équipes, on a des équipes de dev, etc., qui sont à l'étranger pour des coûts. Simplement ouais. Des coûts et puis une rapidité aussi quand on manque de dev, ouais. C'est beaucoup plus difficile de trouver la bonne personne quand on est à San Francisco parce que voilà, il y a plein de startups, donc attirer les talents, c'est pas évident. Et on veut pas non plus prendre n'importe qui, donc du coup, on préfère prendre notre temps et en même temps, du coup, on a des équipes qui sont comme ça déployées à l'étranger et qui nous permettent en fait de continuer à travailler. En 100%, de se dire on va faire notre roadmap, on va la faire quoi qu'il arrive, parce que on a les équipes pour.
Ok, donc en termes de design, c'est Mexique, deux personnes au Mexique, c'est ça?
Ouais, une personne au Mexique et une personne c'est Paraguay, c'est ça? Asunción? Je me trompe tout le temps entre Paraguay et Uruguay, donc elle me tue. Mais voilà, c'est super, je me dis.
Et en dev, c'est l'offshore, il est où?
C'est pareil, c'est les mêmes.
Ok,
bureaux.
D'accord. Ok, très bien.
On a essayé de faire des équipes, en fait. C'est ça. Dev, okay. Dev, PM, design, dans ces deux pays-là. Et donc, ils s'occupent de produits spécifiques. Donc, nous, on est 7 en tout, si je compte tout le monde, dans design, de designers. Et on a 38 développeurs. Et on a, je ne sais plus, je regardais là tout à l'heure parce que justement, il y a tellement de gens que je suis perdue. Ouais. On a 18 products, mais dans le product, on a le design. On a le design, on a les gens qui vont écrire la documentation, on a product marketing.
OK.
Qui vont s'occuper de tout ce qui est release, communication aux clients, vendre des nouvelles features de chaque. On fait ça par trimestre, en fait, tous les trimestres, on sort une nouvelle release.
Oui, j'ai vu, mais c'est très. Enfin, c'était hyper intéressant de voir la vidéo explication avec le product manager qui explique les petites. Non, mais c'est super mais
c'est
bien.
Ouais, c'est nouveau, on fait ça depuis, c'est la deuxième fois qu'on fait ça et ça marche bien. Parce que voilà, c'est quand même compliqué, plus on a des gros clients qui justement mettent Parseval dans le monde entier, plus tu dois gérer les releases. Et ça, c'était hyper intéressant de mon côté de comprendre ça, parce que entre l'Europe, etc., tu vas pas release à la même heure, enfin, comment tu fais en fait pour communiquer au bon moment? Eux, c'est un gros impact chez les clients parce que ils doivent refaire toute leur documentation d'entraînement, etc., sur place. C'est assez lourd quand même.
On va en reparler parce que j'ai ce sujet formation qui m'intrigue, monter en compétences formation. Je le garde en tête. Donc sur l'organisation, toi, tu as un scope bien défini, bien précis ou pas?
Non. On n'est pas en squad.
Okay.
En fait, chaque product designer, on est des product designers pour l'instant. On n'a pas de spécialité en soi.
Et product designer chez Parseval, c'est quoi ton quotidien? Enfin voilà.
C'est on a une feature, donc en fait on a des features qu'on appelle les feature team, donc on va avoir 4 développeurs, enfin 5 développeurs on va avoir, parce que en fait on a chaque spécialité back-end, front-end, iOS, Android.
Ok.
Ouais. Donc déjà on a 5 devs et un product designer, un PM.
Ok, à chaque fois.
Ouais, à chaque fois. Et en fait, on a une feature par team. Donc, la feature, c'est quand même des choses qui sont généralement assez conséquentes. Comme par exemple, le dernier truc sur lequel j'ai bossé, c'est Analytics. Donc, Analytics, voilà. On est arrivé, on m'a dit, Alexa, tu peux faire de l'Analytics? Et vas-y. qu'est-ce que ça veut dire analytics, voilà, qu'est-ce que tu entends par là, c'est quoi que qu'est-ce que tu as dans la tête, qu'est-ce que les clients veulent, personne ne savait. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de recherches à faire. Et du coup, donc en fait, on passe par le process classique de tu définis ton problème, tu rencontres plein de gens. Donc comme tu me posais la question tout à l'heure, tu vas parler autant à des exécutifs pour voir comment ils voient en fait Parseball à travers les usines, etc. C'est quoi leur besoin d'analytics par rapport à ça.
Ouais.
Comme tu peux aussi aller voir ce qu'on appelle le shift manager, donc celui qui va gérer le shift du matin pour sur la ligne de production. Donc de quoi il a besoin, est-ce qu'il a besoin de voir combien il y a eu d'incidents, combien ce qu'on appelle des déviations, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été suivies sur la procédure, comment tu lui montres ça, etc. Jusque au mec qui est dans la production line, enfin dans la ligne de production, et on va lui dire bah il y a des choses auxquelles on commence à penser et qui sont un peu compliquées. Comment tu lui donnes en fait une sorte d'incentive pour dire ah bah t'es plus rapide que tout le monde, c'est super. Ou tiens, tu peux faire ça, etc. Comment tu lui donnes des conseils?
Ok, bah ouais, parce que là, après, ce qui est sous-jacent à ça, c'est effectivement les gains de productivité et l'optimisation du temps de travail des gens sur place. D'où la question tout à l'heure, effectivement, de est-ce que les gens peuvent être ou non réfractaires à l'idée que, vu qu'ils sont scrutés quasi en temps réel et qu'on peut savoir exactement ce qu'ils font.
Ouais.
Et quand c'est comme ça, t'as le sujet analytics, tu vas sur le terrain. Comment tu fonctionnes?
Oui, donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait plein d'interviews. Ce qui était hyper intéressant, c'est que c'était un process hyper long, dans le sens où il y avait beaucoup d'a priori, surtout dans notre équipe, enfin en interne.
C'est-à-dire, ouais.
Dans le sens où, on bosse avec des super grosses boîtes, Shell, etc. Non, mais les analytics, ils ont pas besoin de nous. Ils ont des équipes dédiées, c'est sûr.
Ouais.
Ils ont des business intelligence engineers. Enfin, tu vois, genre vraiment, ils ont des boîtes d'intelligence business.
Ça sent le fichier Excel.
Et voilà, exactement. Et t'arrives, et le mec, il dit, bah non, nous, on est perdus. Enfin, super, on a Power BI parce qu'on a Microsoft, mais on sait pas l'utiliser. On n'a pas de ce qu'on appelle les data pipelines, on n'a pas de sources de données assez fiables pour savoir ce qui se passe sur le terrain, parce qu'en fait ils ont plein de données,
ouais.
Ils ont pas besoin de nous pour tout ce qui est forcément inventaire, tu vois, je veux dire combien de vis ils ont utilisé, combien ils doivent en commander, ce genre de choses, ils ont pas vraiment besoin de nous, ils ont besoin de nous pour savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain.
Okay.
Et du coup là-dessus ils ont rien, les seules données qu'ils ont c'est celles qui viennent de Parseball. Et voilà, et nous on leur donne une API et il n'y a rien d'autre, quoi. Et donc du coup ils sont là, bah ouais, bah c'est super, mais en fait moi j'ai envie de me débrouiller tout seul. Ils ont des fois une DSI, mais enfin t'imagines, ils ont des milliers de gens dans le monde, enfin ils peuvent pas gérer les demandes du rapport de la journée de chacun. Et du coup c'était assez marrant en fait de voir cet énorme écart. Et de voir aussi combien, en fait, même si t'es une grosse boîte, t'as pas forcément les structures en place. Et t'as pas forcément les ressources, t'as pas forcément le budget non plus.
Ouais.
C'est quand même un sacré budget de créer une sorte de source de données, etc. Agréger toutes tes
logiques extérieures de...
Et donc, bref, donc on est parti de « ils en ont pas besoin », en fait, « ils attendent qu'on le fasse ».
Ok.
Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est devenu du coup la feature de l'année, quoi.
C'est vrai.
Ouais. Et donc, du coup, c'était assez marrant parce qu'il a fallu un petit peu. Enfin, moi, j'ai pris les choses assez doucement, quoi. Je dis, OK, on va poser nos hypothèses. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais posons les hypothèses. Et donc, en fait, j'ai posé les hypothèses. J'ai dit, voilà, c'est ça que je vais tester. Et en fait, après, je suis revenue. En fait, on fait ce qu'on appelle des product meetings, des product reviews. Où en fait, avec toute l'équipe produit large, donc PM, CPO, CTO, il y a des ingés qui sont invités dans l'équipe, le product manager marketing, etc. Tous ensemble, en fait, on revoit quelque chose sur la feature. Ça peut être du coup les requirements, ça peut être les entretiens utilisateurs avec voilà ce qu'on a appris, ça peut être la solution qui est en train de se mettre en place, les designs, etc. Mais on revoit au fur et à mesure en fait toutes ces étapes-là avec l'équipe. Et c'est là où j'ai montré du coup les résultats des entretiens, et ils étaient là, ouais, ok, on était loin, quoi.
Développer une telle feature, ça... enfin, les cycles de développement, enfin, j'ai plein de questions associées à ça. Le cycle de développement, il est long, il est court ou comment...
Hyper long.
Hyper long.
Ouais, hyper long. Parce que déjà, rien que la recherche, ça a pris du temps.
Ouais.
C'est quand même compliqué d'aller parler, parce que du coup, je parlais déjà aux États-Unis, mais aussi en Europe, etc. Donc, tu vois, faut se lever tôt, quoi.
Ouais.
du coup, non, faut parler un peu à tout le monde. Faut aussi faire attention aux industries, parce qu'en fait, moi, ce que j'essaye aussi de faire, c'est qu'à chaque fois pour mes entretiens, je fais en sorte de prendre à la fois des gens qui sont dans des industries différentes, à la fois des gens qui ont des rôles différents. Parce que évidemment, l'exécutif de Shell, il n'a pas du tout les mêmes besoins que le petit chief manager de telle ville, quoi.
Comment vous arrivez, puisqu'on a la double contrainte de, effectivement, les industries sont différentes, le scale est différent. Comment vous, est-ce que c'est une version à minima qui satisfait tout le monde?
Alors déjà, comme tu me disais, les fonctionnalités sur ta licence, ça, tu peux les varier. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire. Ben en fait, tu peux tester telle feature pendant X mois, par exemple. On a des features flags sur toutes les features.
Ok.
C'est ça que je... et du coup, à partir de ça, en fait, tu peux gérer ton produit comme tu veux, quoi.
Ok.
Si tu as besoin d'intégration, tu vas avoir la feature intégration. Si tu as besoin de... on a des workflows, par exemple, où tu peux permettre de lier des... pour faire une sorte de process... Donc pour que tous les jobs s'enchaînent les uns après les autres, parce qu'aujourd'hui on a faisait un par un, mais là tu peux aussi dire avec des conditions, si y a ça qui se passe, alors il y a ça qui fait, si il y a ça qui se passe, alors tu déclenches tel job, ou alors tu déclenches telle action. Ce genre de feature, en fait, tu peux les mettre on ou off. Et du coup, en fait, ce qui te permet de répondre un peu aux besoins de chacun. Après, d'une petite boîte à une grande boîte, il n'y a pas tant de différence que ça. Je dirais que les petites boîtes ont par contre des besoins très différents. Mais les solutions ne sont pas forcément différentes, dans le sens où on a aussi beaucoup de startups. Enfin, pas beaucoup. On en a quelques-unes à San Francisco. On a des petites startups à San Francisco qui veulent nous utiliser et qui nous utilisent et du coup, en fait, qui sont hyper au taquet sur les nouvelles technologies, par exemple.
D'accord.
Alors pour eux, c'est normal, quoi. Ils sont à San Francisco, ils sont dans la Silicon Valley,
ouais.
Ils ont Internet au taquet, ils ont la 4G, 5G, parce que ça, c'est un énorme avantage de notre produit, c'est qu'il marche hors connexion.
Ok.
Ce qui est énorme, parce que le flot de données qu'on récupère et qu'on doit gérer pendant que c'est hors ligne, c'est hyper compliqué. Et ça, c'est un des gros avantages de Parseball parce que, par exemple, il y a un de nos clients, voilà, il est dans, il va chercher du pétrole en plein milieu de l'océan. Pendant un mois, il va être connecté au satellite, mais c'est tout, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de bande passante. Donc, comment tu fais pour gérer ça aussi, en fait? Il y a tout ce flow-là qu'il faut toujours penser dans le design. C'est qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas connecté? Qu'est-ce qui se passe si les données, elles ne sont pas renvoyées, etc. Mais bref, pour revenir à ta question. Mais du coup, le scale, en fait, ce n'est pas tant dans la façon dont tu vas proposer les solutions, c'est dans la façon dont tu ne vas pas te faire biaiser par certaines industries comme, ou par certaines startups en te disant « Ouais, tout le monde a la 5G, c'est normal ».
Okay.
Non, en fait, tu vas tout le temps dans le. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours le pire scénario. Donc, typiquement, celui que je viens de te dire, ouais. Pour moi, c'est celui que j'ai souvent en tête.
Voilà. D'accord.
Qu'est-ce qui se passe pour le mec qui est un mois au milieu de l'océan?
C'est incroyable, les échelles. Moi, c'est qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est dans le métro? Et toi, c'est. Ok, mais c'est super. Justement, qu'est-ce qui, je le ressens dans ce que t'en parles. Toi, au quotidien, qu'est-ce qui te motive le plus et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile?
Ouais, clairement, moi, ce qui me motive le plus, c'est tout ce qui est recherche. Enfin, clairement, les entretiens, discuter avec les gens, aller sur le terrain, voir ce qui se passe. En plus, c'est assez intéressant parce que j'ai la chance de parler français, donc on m'a aussi envoyé en France. Et de voir les différences aussi entre des Américains ou des Français ou tu vois dans les usines, c'est très drôle. Enfin, ou même tu vois au Japon, je suis pas allée, mais genre j'ai une collègue du coup qui une collègue sales qui veut développer au Japon, etc., qui commence à qui est japonaise,
oui.
qui me dit que ça n'a rien à voir quoi. On va devoir réfléchir différemment. Tu peux pas donner les mêmes incentives à un japonais, à un français et à un américain. Les choses sont assez différentes. Alors tu vas pas forcément le changer dans le produit, tu vas pas forcément faire des choses très différentes, mais il faut que tu l'aies en tête quoi. De dire fais attention parce que ça peut vexer. Typiquement Analytics, la feature que je te disais, on avait plein d'idées de dire ouais, on peut faire un leaderboard, à dire le mec ouais. il est plus rapide que les autres
ouais.
et les autres ils sont en bas. Ouais, mais non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire que Jean-Michel il est à la ramasse quoi.
Ouais, exactement, Jean-Michel ouais. qui est là depuis 30 ans
Et en Allemagne, d'ailleurs, sur Parseball, je sais que dans les usines où on voulait déployer, on avait les unions,
les syndicats.
Les syndicats qui regardaient quand même très précisément le contrat, de savoir comment on gérait la donnée. Et donc, du coup, on a aussi deux serveurs. On a un aux États-Unis, un en Europe, parce qu'on a plein d'informations sur les gens.
Ouais.
Donc, comment tu fais pour gérer ça? Nous, des fois, en États-Unis, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on va dire, ouais, tu vas dire, enfin, tu peux donner tellement d'infos, enfin, on sait exactement ce qu'ils font, quand, etc. Mais comment tu le donnes? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, par exemple, notre CTO de l'époque voulait pas et on a toujours pas fait, et je trouve ça bien d'une certaine manière, c'est, on veut pas de géolocalisation.
C'est-à-dire?
Ça veut dire pas savoir nécessairement où est la personne. Maintenant, on n'active pas la géolocalisation sur nos devices. Alors que ça pourrait nous aider en soi. On pourrait développer des fichiers en disant Jean-Michel, il est à l'autre bout du. Parce que les usines, elles sont hyper longues. Des fois, elles font 1 km, 2 km de long. Donc, quand tu dis en fait, il faut que tu envoies Jean-Michel de l'autre bout de l'autre côté, s'il y a un incident ou une urgence, peut-être que Patrick, il est plus proche. Donc, on pourrait faire des choses comme ça.
Ouais.
Mais on trouve que la valeur versus ce que les utilisateurs doivent nous donner, la contrainte, est trop importante.
C'est intéressant. C'est une décision d'entreprise, une décision morale, éthique d'entreprise qui est pas forcément, du coup, ça vous a déjà été demandé côté client, par certains clients.
Ouais, et on a trouvé d'autres manières de le faire, de manière beaucoup plus simple, mais du coup beaucoup moins granulaire. Mais finalement, ça leur suffit. Voilà, on leur fait des rapports avec ce qu'on sait par usine. Ils vont demander qu'est-ce qui se passe pour tel ou tel truc. On est capable de leur donner par usine, par ville. Ils n'ont pas besoin finalement de savoir que Jean-Patrick il est à l'autre bout ou pas. Enfin, ils s'en fichent. Donc, on sait exactement qui sont les gens qui travaillent à tel endroit ou dans telle usine et on peut leur faire des rapports par rapport à ça.
Vous n'avez pas Amazon en client, non?
Non.
Non, parce que je pensais au côté justement le besoin d'optimiser en temps réel, en permanence. Bon, ça me faisait penser à ça.
Ouais.
Ok.
Ouais, ouais.
Donc la dimension, ce qui te motive le plus au quotidien, effectivement, c'est la dimension de recherche, approfondissement et puis l'humain, parce que ça, c'est ce qui ressort. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile?
Le plus difficile. Pour moi, alors c'est très personnel, hein, mais pour moi, c'est justement naviguer dans des cultures si différentes. En fait, au travail, pas forcément par rapport à mes clients, à nos clients, mais juste avec mes collègues, etc. J'ai appris, c'est ça, et j'apprends toujours d'ailleurs, à communiquer différemment en fonction de la personne à qui tu parles, ce qui est un vrai exercice au quotidien. C'est compliqué. Non, mais si, c'est vrai.
Je te crois. Comment, justement, comment tu t'alimentes face à des situations challenging ou quoi? C'est quoi? Tu vas lire, tu sors, tu rencontres des meet-ups s'il y en a, peut-être, comme tu me disais, c'est un peu moins actif. Comment tu fais?
Je lis beaucoup. Beaucoup, encore plus récemment, beaucoup de gens qui me conseillent plein de bouquins, donc j'ai 500 bouquins sur ma table de chevet.
T'en as un que tu peux me recommander ou que tu peux nous recommander?
Ouais. Celui que j'adore et que je recommande beaucoup en ce moment, qui est Never Split the Difference, qui veut dire ne divise jamais par deux pour faire ta négociation, quoi. Et qui est génial. Qui est vraiment génial, qui, moi, m'aide beaucoup. Et en fait, c'est un livre fait par un super mec du FBI qui t'explique comment il négocie avec des prises d'otages, avec des terroristes, mais aussi avec son gamin pour être sûr qu'il aille se coucher à l'heure. Et c'est génial. Et c'est génial parce qu'en plus, c'est écrit avec... c'est pas lourd. Au début, je me disais, oh là là, ça va être compliqué à lire ce truc. Pas du tout, parce que dans chaque méthode, en fait, il a plein de méthodes différentes en fonction des situations. Il t'explique une situation et du coup, c'est super prenant, quoi. Il t'explique des prises d'otages, etc. Et il t'explique comment il a fait pour que ça marche ou pourquoi ça n'a pas marché.
Ok.
Et du coup, c'est hyper intéressant. Et moi, ça m'aide beaucoup.
La psychologie, ouais.
Ouais, et parce qu'en fait, tout est une histoire de négociation. Que ce soit avec tes clients, que ce soit avec les gens avec qui tu parles en entretien. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de trucs sur la user research, ici, le demander pourquoi, poser la question how plutôt que what, enfin des choses comme ça qui sont que nous aussi on a intégré en design et c'est marrant de faire le parallèle.
Intéressant. Quelles sont les plus mauvaises recommandations que tu entends dans ton job en permanence? Alors, c'est plus sur le design de manière générale, des choses que tu vois passer ou que t'entends parler. Tu dis c'est vraiment du bullshit. Avec tes 8-10 ans d'expérience et de recul, est-ce qu'il y a une chose qui ressort?
S'il y a une chose qui ressort, comment je pourrais le formuler? Je pense clairement d'être tout le temps... Non, mais je sais. T'inquiète, je sais. Moi aussi, j'ai parlé à un client.
Ok.
Je sais. Et en fait, souvent, c'est pas méchant. C'est sincère, mais c'est juste que souvent, ils ont parlé à une personne. Okay. Alors que toi, t'as parlé à 10 personnes. Et tu sais faire la différence entre qu'est-ce qui est lié à cette personne-là précisément et qu'est-ce qui est valable pour ton produit. Et ça, c'est un truc que je vois tout le temps, quoi. Autant, même des designers, hein, parfois, qui font ça. Et surtout quand, justement, on a des boîtes comme, des grosses boîtes comme Shell versus des boîtes comme ça, comme des startups. On dit, ah ouais, mais eux, ils veulent aller vite. Ouais, mais peut-être pas le mec de chez Shell qui a 50 ans, tu vois. Genre, c'est différent. Par exemple, on a eu des soucis de... on voulait, sur notre app, on a changé notre application, la UI, avec des textes super gros pour que ce soit plus visible parce que les gens, ils ont des lunettes, etc. Donc, les textes devaient être un peu plus gros, etc. Et du coup, on les a fait assez gros, mais ça rend bien. Mais par contre, les startups, elles nous ont dit, oh là là, c'est gros, ça prend de la place, nous, on veut aller vite, quoi. Et eux, ils n'ont pas forcément des lunettes, etc. Ils sont... C'est des contextes complètement différents. Donc, comment tu fais pour balancer ça, contrebalancer ça, c'est tout le boulot du designer.
Ouais, en l'occurrence, c'est des audiences différentes, ouais, des publics cibles différents. Ok, ouais. Hyper intéressant. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Là, ça va faire... ça fait un peu moins de 2 ans à l'étranger. Tu comptes y rester? Est-ce que tu veux développer en management d'équipe?
C'est une excellente question. Alors oui, clairement, management d'équipe, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que je fais plus ou moins déjà, parce que les deux personnes que je gère, deux personnes du coup à l'étranger, les deux designers qui sont au Mexique et au Paraguay. Mais clairement, j'aimerais bien avoir des équipes dédiées ou des gens que je peux faire évoluer. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, les prochaines étapes, c'est toujours compliqué. Hein. Dans le sens où, est-ce que je vais rester à Vancouver? Je suis pas sûre. C'est assez calme comme ville. J'adore, mais donc je pense que les prochaines étapes, ça va être trouver une nouvelle opportunité qui me fasse un peu grandir aussi sur ces sujets de management, peut-être avec un scale différent, peut-être une grosse boîte, peut-être revenir à une petite start-up. Je me pose la question en ce moment, donc on verra. Je me laisse le temps.
Ça m'intéresse, la gestion à distance, la gestion en remote. Alors même si c'est peut-être pas officiel, mais c'est quoi les challenges que tu vois, toi, à gérer des gens qui ne sont pas physiquement à côté de toi? Vous voyez, les personnes viennent de temps en temps ou c'est vraiment complètement remote?
Non, non, les enfin, les personnes viennent de temps en temps. Après, c'est quand même bien remote, dans le sens où ouais. tu vas pas faire venir les gens.
Oui.
Ouais. De...
Là, je... T'es pas au Hollands à 9h lundi matin.
Okay. Bah, surtout que là, par exemple, je fais venir une des designers à Las Vegas parce qu'on va faire un super séminaire à Las Vegas avec toute l'équipe produit et les ingés et les managers et tout ça. Je voulais qu'elle soit là parce que la dernière fois, je l'avais promis, ça avait été compliqué avec ses visas, etc. Mais elle fait 25 heures de vol, quoi.
25 Donc, heures de vol, ouais. Okay.
Et okay. avec un visa où c'est compliqué de venir aux États-Unis pour beaucoup de pays. Ça aussi, ça, je m'en suis rendu compte. Pays voilà, mais du Sud ou ce qui est même tu sais les pays d'Afrique pays ouais. arabiques c'est ouais. compliqué enfin même j'ai une de mes collègues qui est chinoise voilà quoi elle sait qu'elle va rester 2 heures à la douane qu'ils vont lui poser plein de questions enfin c'est réel quoi moi je m'en rendais pas du tout compte mais donc oui donc il y a ça après le remote personnellement je trouve que moi j'y crois je pense que ça va être le futur du travail de toute manière.
J'ai vu que tu as rédigé un article là-dessus, effectivement, qui était, je pense, pendant ta période de 3 mois en Asie, parce que j'ai vu... Ouais. Ok, d'accord. J'invite les gens à lire ton article, effectivement, sur...
Il faut que je le relise. Je ne sais pas si mon anglais était aussi bon à cette époque.
Bah, à minima, c'est un point de vue sur la question. Et, ouais, et donc, ton point de vue a évolué ou pas? Non, tu restes convaincu que le remote, c'est...
Ouais, je reste convaincue que c'est le futur, qu'il faut doucement mais sûrement commencer à s'y habituer.
Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ce soit vraiment
Alors par contre ouais il y a beaucoup de choses à mettre en place c'est sûr que si tu te dis ok il y a quelqu'un qui sera en remote mais tu fais rien pour ça, ça va pas marcher notamment par exemple un truc qu'on fait c'est qu'on enregistre toutes les réunions enfin voilà toutes les réunions qu'on fait on les enregistre comme ça pour les gens qui sont en Europe ou les gens qui peuvent pas être là ou parce qu'ils sont pas dans la bonne time zone. Ils peuvent la revoir quand ils veulent.
Ok.
Ça, c'est un truc qu'on fait. Après, voilà, Slack, ça marche bien.
C'est un enregistrement vidéo ou audio ?
Ouais, vidéo. Généralement, voir le visage de quelqu'un, c'est bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait là, mais... voir le visage des gens, c'est bien. Après, faut accepter aussi que les gens ils sont aussi un peu plus naturels.
Ouais.
Des fois, c'est des situations assez marrantes où tu vois les chiens, tout ça, qui sont ouais. sur les genoux. Tout ça, c'est assez drôle. Mais du coup, ouais, les vidéos, être capable en fait d'avoir aussi deux vitesses, moi je trouve. Une vitesse qui est dans l'instantané avec les gens qui sont soit dans ton bureau ou dans le bureau d'à côté, sans France, on est sur la même time zone. Mais aussi faire attention à quand tu parles aux gens en Europe, bah, soit il faut que tu te lèves tôt le matin, soit que tu acceptes de parler un peu plus tard le soir.
Ok.
Et d'être à deux vitesses. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important.
Quand tu dis à deux vitesses, c'est accepter le fait que la prise de décision ou la réponse, ce soit le lendemain potentiellement, quoi.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on est tout le temps dans l'instantané. Enfin, je trouve que
exactement.
C'est un peu bien et mal en même temps. Je pense que Slack, c'est un peu ce sur quoi peut-être ils se battent dans le côté où c'est génial et en même temps, t'es
exactement.
Overwhelmed. Ouais. Exactement. Et du coup, comment tu fais en fait pour avoir ces deux vitesses-là et que les gens qui sont pas dans l'instantané se sentent pas à côté, quoi. Et donc moi, je fais toujours attention que les designers qui sont à l'étranger soit dans tous nos meetings, puissent les voir, ou alors, des fois, on met en place des documents à l'avance, en disant, voilà, c'est ça les sujets sur lesquels on va parler. Tu peux mettre tes action items ou les choses dont tu veux qu'on discute, comme ça, on en parle en premier. Et après, toi, tu peux partir au milieu du meeting, parce que des fois, on a des meetings, des workshops ou des trucs comme ça qui durent 2 heures.
Ouais.
On sait que s'il est tard pour toi, on va commencer par les choses dont tu voulais discuter, puis comme ça, tu peux partir au bout d'une heure, quoi.
Vous faites des design reviews? Ou à distance, ouais.
Ouais. On
fait comment vous les gérez? Comment vous les gérez?
Du coup, nous, on a Abstract.
Ouais.
Qui est, franchement, j'adore. Et du coup, en fait, on met tout. On est sur une branche. On crée des collections et en fait, on revoit ces collections-là ensemble. Donc, soit ça va être des écrans, soit généralement ça va être des flows un petit peu annotés. Et du coup, on va regarder ça, on va regarder flow par flow en disant, voilà, est-ce que ça a du sens, pas de sens, etc. Et on en fait plusieurs, généralement, par feature.
Ok. C'est ouais, votre stack, c'est quoi? C'est Sketch et Abstract ou
Ouais,
Figma ou...
Sketch Abstract, et voilà, principalement. Ouais, c'est après, on a une vision pour les prototypes. On a commencé à faire un peu de principal
OK.
pour quelques animations un peu basiques. Et voilà, si je veux bien.
Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas du tout, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des enjeux d'animation, transition, côté un peu fancy ou pas du tout? Efficace, simple, lisible, accessible?
Ouais, on est plutôt sur la deuxième solution.
Ok. Oui,
Grand regret de la plupart des designers parce qu'on a tous envie de faire des trucs cool.
Ouais.
Mais enfin, déjà, on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, je dis, on reste quand même une petite équipe. Enfin, voilà, on a 40 développeurs pour 7 designers depuis cette semaine. Enfin, voilà, avec des gens qui sont nouveaux, beaucoup de gens qui sont nouveaux. On était encore deux il y a 3 mois, quoi.
OK.
On était trois, pardon, trois il y a 3 mois. Du coup, voilà, les animations, c'est cool. Par exemple, on a changé notre navigation, voilà, pour les éléments comme ça. T'as une navigation, il y avait une sidebar navigation. Du coup, on avait besoin de quelques animations, mais ça reste assez simple, quoi.
OK. Ouais. Donc design review à distance et
Ouais.
ouais, et remote à fond.
Remote, ouais. Et en fait, un dernier mot sur le remote, c'est que je pense que ce qui est important, c'est aussi de trouver des moments en vrai face à face. Et ça, on a la chance à Barcelone, ils nous donnent le budget pour ça. De se dire, OK, on va passer 3 jours ensemble, vous venez tous à Vancouver, ça va être génial. La dernière fois, on a fait un escape game. Passer du temps ensemble, au-delà du boulot, passer du temps ensemble pour se connaître. Pour se faire confiance, parce que mine de rien, en fait, c'est aussi ça, en fait, le challenge du remote, c'est comment tu fais confiance à quelqu'un que t'as jamais vu,
Exactement.
et comment tu crées ce lien. Moi, je pense que c'est le remote n'empêche pas que tu dois une fois tous les 3 mois, 3 jours, ou voilà. Donc nous, en fait, on a beaucoup beaucoup de temps comme ça, et notre CPO aussi fait ça avec toute l'équipe produit. Comme là, on va à Las Vegas. La dernière fois, on est allé à Sonoma, qui est à côté de San Francisco. On essaye de trouver, en fait, des moments comme ça où on peut se retrouver, discuter, rencontrer des gens avec qui tu parles jamais, parce que c'est compliqué aussi. On est 140, quoi, partout, enfin en Europe. Donc parfois, la dernière fois, on est allé en Arizona tous ensemble, tu parles aux gens qui sont en Europe ou au Mexique, à qui tu parles jamais, en fait, juste par la time zone aussi. Enfin, parce que tu sais, quand tu lui parles, il va te répondre demain, quoi. Donc c'est différent.
Ok. C'est top. Bah, merci beaucoup, Alexa. Merci,
Bah,
merci.
ça fait plaisir. Merci, merci à toi.